Bonjour. Je suis permis de monter parce que sinon ils allaient continuer une heure. Alors. Et après on va être en retard, on va courir après le temps. C'est déjà qu'on est en retard. Mais c'est pas grave, hein. On est à la campagne. Alors ce matin, le thème tout le week-end c'est l'église. Et c'est à moi qu'on revient le plaisir de commencer. Donc je suis très content. Et juste on va partager sur. Je vais juste parler de qu'est-ce que l'Église. Voilà. Alors, peut-être certains se disent, oui, bon, mais ça va, on sait ce que c'est. Alors, ça fera quelques petits rappels. Peut-être que dans d'autres, ça va. Des fois, il faut revenir à des fondamentaux. Voilà. Alors, la première mention de l'Église dans le Nouveau Testament, vous savez où on la trouve ? Non, mais toi, on t'a rien demandé. Toi, tu es exclu. Toi, tu comptes pour du beurre. Alors, Alain, je suis sûr qu'Alain, il le sait. Non. L'Évangile. Ouais, Alain ou Christophe. L'Évangile de Matthieu. Et qui dit ? Qui en parle ? Jésus. Donc, c'est marrant parce que rien n'existe et Jésus en parle. Et il va dire quoi ? Vous la connaissez. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. On pourrait s'arrêter là, parce que tout y est. Déjà, il y a tout. Qu'est-ce qu'il y a ? D'abord, on voit que l'Église, ce n'est pas une invention, que quelqu'un un jour s'est levé et s'est dit, tiens, je vais créer l'Église. Non, l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Déjà, c'est déjà plus crédible. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a parlé de l'Église. Et Jésus... Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit sur cette pierre. Et c'est quoi la pierre, là, en l'occurrence, dans le contexte ? C'est la déclaration que Pierre a faite juste avant. Moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que cette déclaration, même aujourd'hui, elle n'a pas changé. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il se convertit. Qu'est-ce qu'il fait dans son cœur ? Il déclare haute voix, mais concrètement, ça revient à ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et je te donne ma vie. Donc déjà, on voit que ça n'a pas changé. C'est cette déclaration qui nous réunit, en fin de compte. C'est ça, proclamer notre foi. On croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et deuxième conséquence, là aussi, qui va être pour toujours, les portes du séjour des morts ne prévaudront point comme elles. Tout est résumé. On accepte le Seigneur, on reçoit la vie éternelle. Simple, clair. C'est Dieu, quoi. C'est plus facile. Voilà. Donc, je trouve ça génial. C'est simple. Et on voit quoi ? Que dans ce passage, l'Église, c'est l'entité universelle. C'est l'épouse de Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tellement aimé cette Église qu'il a donné sa vie. Alors, Dieu, Jésus a aimé l'Église et il a donné sa vie. Et ça, c'est l'Église universelle. Et puis, on rentre dans l'Église locale. La première église locale, elle est née où ? Ah non, pas Antioche. À Jérusalem. À la Pentecôte. Ils sont 120 dans la chambre. Hein ? Ouais, exactement. Mais là aussi, pareil, quand on regarde juste ce passage, je vais vous la partager, mais il fallait trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est quoi ? Ben, il fallait un lieu, c'est aussi bête que ça, mais il fallait un endroit où ils se réunissent. Jésus leur dit « réunissez et attendez ». Il faut des hommes, là aussi c'est une banalité. Et qu'est-ce qui est tombé sur chacun ? L'Esprit Saint. C'est ça l'Église. Un lieu, des hommes, mais s'il n'y a pas l'Esprit Saint, il n'y a pas d'Église. Mais s'il n'y a que l'Esprit Saint sans hommes, il n'y a pas d'Église. Le lieu, bon, lui on pourrait... Mais à un moment donné, il faut quand même se réunir. Donc le lieu aussi a son importance. Donc voilà. Et ce jour-là, 120 personnes ont été les fondateurs de l'Église locale. Moi, je trouve ça génial. Et après, 120 ans après, donc ça c'est pour ceux qui aiment les chiffres, les historiens ont estimé qu'il y avait à peu près 40 000 chrétiens. Et à peu près autour de l'an 300, 1 200 000 chrétiens dans l'Empire romain. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ce qui est génial aussi, c'est que à l'an 100, il n'y a plus d'apôtres, ils sont tous morts. Et ça n'a pas empêché l'Église de continuer. Hein, voilà. Ils sont allés partout. Macédoine, Grèce, Rome, Égypte, etc. On dit même jusqu'en Inde. Les évangélistes à l'époque, ça y allait, hein, ils n'hésitaient pas. Voilà. Et un des premiers, ça c'est très intéressant, c'est quand le monde parle de nous, les chrétiens. Et le premier document quasiment extra-biblique, c'est Pline. Pline l'Ancien ou Pline le Jeune, hein. Peu importe, on s'en fout, c'est Pline. Voilà. Et il écrit à l'empereur Trajan. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est vachement intéressant. Il écrit pour savoir ce qu'il doit faire des chrétiens. Et il dit ceci. « L'affaire m'a paru mériter que je prenne ton avis, surtout à cause du nombre des accusés. Il y a une foule de personnes, de tout âge, de toutes conditions, des deux sexes aussi. » Pour lui, déjà, ça veut dire... Hein, bon, je referme et j'y reviendrai. « Qui sont ou seront mises en péril. Ce n'est pas seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages, les campagnes, que s'est répandue la contagion de cette superstition. » C'est génial. On voit très rapidement que le monde, il n'aimait pas l'Église. Hein. Exactement, il a peur. Et bien, 2000 ans après, c'est toujours l'Église, elle est toujours là. C'est toujours des personnes, des deux sexes. On ne se rend pas compte. Il y a 2000 ans, les femmes, elles ne restaient pas avec les hommes. Ça n'existait pas. Il y avait des réunions d'hommes, mais il n'y avait pas des réunions avec des femmes et des hommes. Et si Pline le fait remarquer, ben, des deux sexes aussi. Vous voyez, alors, mesdames, sachez que l'Église a été très avant-gardiste, même s'il y a des moments, elle a eu quelques périodes un peu moins bien. Voilà. Mais c'est bien de le dire, quand même. Hein ? Donc, de tout temps, l'Église, on le voit, elle a été persécutée, mais rien n'a fait le poids contre elle, en fin de compte, puisqu'elle est toujours là. Hein. Alors, à des moments, ben, elle va être plus active. Il y a une église locale qui va avoir un réveil. C'est un peu ce qu'on a vécu dans les années 75, 80, on va dire, dans cette période. C'est vrai que dans la région de Nîmes, il y a vraiment eu un réveil. Je veux dire, à Codognan, à Nîmes, il y a eu un réveil. On ne peut pas le nier, quoi. C'est-à-dire, les gens se convertissaient... On parlait de Dieu, on ne savait même pas des fois ce qu'on disait, les gens se convertissaient. Donc, on l'a vécu, et il ne faut pas parler en vieux combattant, mais se dire que c'est aujourd'hui aussi le réveil. Donc, je pense qu'il faut retrouver, avoir cette foi, voilà, plutôt que de juste nous regarder. Voilà. Et en même temps, donc, l'église locale, c'est une collectivité, mais en même temps, c'est des individus, comme Pascal a dit en préambule. Parce que la foi, elle s'adresse toujours à un individu, c'est la rencontre de Dieu avec son Sauveur. Et ça, c'est personnel. C'est une histoire individuelle, la vie chrétienne, mais qui ne peut fonctionner qu'avec les autres. Là aussi, c'est marrant, ça fait quand même réfléchir. Hein, Jésus, il va dire qu'une âme a plus de prix que le monde entier, quoi. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se convertit. Hein. Donc, ça, c'est un point aussi. Et en se convertissant, on devient solidaire de la vie de Dieu. Alors, j'ai écrit ça, mais... Le christianisme, c'est l'individualité solidaire. On rencontre Christ individuellement, on le manifeste solidairement. Voilà. C'est pour ça qu'un chrétien, il ne peut pas vivre seul, en fait. C'est très clair. Il n'y a pas d'exemple où ça marche. Hein. Et plus notre relation individuelle, personnelle, avec Dieu sera intime, et plus le fruit s'en sera la communion avec les autres. Donc, on reste dans la solidarité. Hein. Voilà. Et cette vie, eh ben, elle a un lieu où elle va se manifester. C'est l'Église. L'Église locale. C'est un défi, ça, pour nous, l'Église locale. Parce qu'il y a des jours, on préférerait peut-être rester chez soi. Mais ça, c'est un piège. Hein. Des fois, on peut être fatigué, hein, c'est pas ce que je veux dire. Regardez ce qu'il dit dans l'Évangile. Nous sommes membres les uns des autres. L'apôtre Paul. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Il y en a plein d'autres, hein, vous les connaissez. Voilà. On peut être solidaire en agissant, on peut être solidaire en priant, on peut être solidaire en appelant un frère, on peut être solidaire en s'inquiétant les uns des autres. Alors s'inquiéter positivement aussi. On n'est pas obligé de tous aller mal pour être solidaire. Même quand on va bien, se voir. Moi, tout à l'heure, je suis arrivé au café, là, je ne sais pas, ça fait plaisir. il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bon, en ce moment, je ne viens pas parce que ma femme est en cure, hein, mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'est génial. Hein. Et bien sûr, ça, ça ne peut pas se vivre dans une église universelle. Ça se vit dans l'église locale. Hein. Voilà. Et ça, c'est un peu l'aspect pratique de l'unité. Voilà. Ça va, je sais pas trop. Un autre point essentiel, selon moi, qui englobe un peu tous les autres, c'est l'unité. Hein. Et Paul, dans Éphésiens, il nous dit « Je vous exhorte donc, moi, qui suis prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation dont vous avez été appelés. Avec toute humilité, douceur, vous supportant avec patience les uns les autres dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » C'est marrant parce qu'il dit, d'abord, il faut s'appliquer à garder ou à conserver l'unité de l'esprit. Donc on remarque quoi ? Qu'on n'a pas à créer l'unité, on a à la conserver. Pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est Christ en nous qui fait ça. Donc on a à la conserver. Parce que des fois, cette unité, c'est vraiment un fruit du Saint-Esprit, mais des fois, on peut la troubler, cette unité. Par nos comportements, par beaucoup de choses, par des fois des aléas dans la vie. Donc la vie chrétienne, c'est une vie commune, et l'union des membres entre eux est aussi nécessaire à la vie du corps que l'union de chacun de nous avec Christ. Vous voyez ? Vers le Seigneur et ensemble. Et là, l'apôtre Paul, il dit le lien de la paix. Ou dans d'autres traductions, c'est le lien qui procure la paix. Et ce lien, c'est quoi ? On retrouve un autre passage dans Colossiens où il dit le lien de la perfection. Le lien que la paix procure, c'est tous les moyens de conciliation qu'inspire l'esprit de paix. L'esprit de paix, l'esprit de bienveillance. Paul, il dit qu'il veut qu'on maintienne l'unité par la paix. Et pourtant, ce n'est pas ce que le monde enseigne, par exemple. On est toujours à l'envers, en fin de compte. En général, on suit l'ordre inverse. On cherche la paix par l'unité. Ou autrement dit, on croit qu'il faut se mettre d'accord, on croit qu'il faut commencer à se mettre d'accord. Et alors seulement, on pourra goûter ensemble l'amour et la paix. Dans le monde, c'est comme ça. Les gens s'accordent et après... Mais selon Paul, donc selon la pensée de Dieu, c'est l'inverse. Il faut commencer par l'amour, ensuite la paix, et alors seulement, on se mettra d'accord. Et c'est vrai que des fois, on le voit dans le monde, hein, mais ceux qui attendent, même nous dans nos vies, d'être bien d'accord pour s'aimer... Souvent, ils trouvent ni accord, ni amour. Ça foire très souvent. Mais tous ceux qui commencent par l'amour, par la bienveillance, par exemple, même s'ils ont des sentiments, des opinions divergentes, ils finiront par se mettre d'accord. Parce que chacun, vous savez, quand on dit, on met son cœur, bon, allez, on est de bonne volonté. Voilà. L'amour crée le désir, le besoin de s'accorder. Et avec ce désir, la plupart des problèmes sont réglés. Pas forcément facilement, mais ils sont réglés. Hein. On pourra avoir des divergences, mais elles ne pèseront pas dans la relation. Ce n'est pas la même chose. Sans hypocrisie. Hein. Et si vous y pensez, l'amour, parce qu'on est d'accord, c'est le même principe que quand le Seigneur interpelle ses disciples. Vous vous rappelez, il leur dit quoi ? Les péagers et les gens de mauvaise vie en font autant. L'amour, quand on est d'accord, c'est une banalité. Mais l'accord par l'amour, ça c'est un triomphe de vie nouvelle. Cette vie nouvelle, on l'a reçue, nous, chacun de nous, en esprit et en vérité. Alors parfois, on va rencontrer un frère, une sœur qui va dire « ben moi je ne suis pas content d'un tel, etc. » Et même à raison, pas toujours à tort, à raison, et ben on doit l'encourager à prier, par exemple. Parce qu'on est encouragé à s'aimer, quoi qu'on fasse. Et c'est parfois agaçant l'Église à cause de ça. Qu'est-ce qu'on aimerait se détester ? Ce serait simple. Non, mais c'est vrai, des fois. Ben non. Dieu, en plus, le Seigneur, il aimait toujours quelqu'un, c'est le seul qu'on n'aurait pas voulu. Et il est là. Chaque fois que vous êtes dans une situation, soyez hyper attentif, réalisez que le Seigneur, il veut vous dire un truc. c'est clair et net. Il veut vous dire, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et il va falloir que, pas que tu l'aimes, il va falloir, Seigneur, que vous alliez chercher la provision pour aimer cette personne, ou pour résoudre ce problème. C'est le Seigneur qui fera ça. Ce n'est pas votre raison, ça ne marchera pas. Hein? Voilà. Il fallait que je sois bref. Je crois que j'ai été bref. Enfin, j'espère. Donc, c'est quoi l'Église? C'est un ensemble d'individus qui ont cru chacun pour leur part, et en croyant chacun, ils deviennent une famille. Moi, j'aime bien cette pensée de la famille de Dieu. Et on est cette famille. Hein? Voilà. Alors, cette famille, ben, comme toute famille, hein, si vous voulez, je vous parle de la mienne, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais elle porte en elle la vie, parce qu'elle a le Christ en chacun de nous. Et c'est ça qui fait la différence. Hein? Et c'est ça qui la rend belle. Voilà. Parce que la vie du Seigneur, elle est en chacun de nous. Voilà. Alors, tendons ensemble vers cette unité. C'est la volonté de Dieu. C'est pas, là aussi, ce n'est pas un délire, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de très humaniste. C'est la volonté du Seigneur. C'est sérieux, on doit la prendre ça très au sérieux. Aimons-nous et nous nous accorderons. Aimons-nous, les choses seront aplanies. Fabriquons pas l'amour, demandons au Seigneur. Pour grandir, demandons toujours au Seigneur. Sinon, on sera déçu, on sera toujours déçu. Il y aura toujours quelqu'un qui aura fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Voilà. C'est ça la vie. Mais c'est un super défi, hein. Moi, franchement, j'aime ça, hein, en fin de compte. C'est enthousiasmant, je veux dire. On ne va pas rester dans nos trucs, non. Et plus on va faire ça, plus on va avoir envie que les autres le connaissent, lui, le Seigneur. Plus on va vivre ça, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils sauront. Voilà. Ils le sauront. On ne se rend pas compte. Enfin, moi, le premier, en tout cas. On prend souvent la légère qu'on est la lumière du monde. On le prend souvent à la légère. Donc voilà. Et ensemble, c'est chouette. Alors, je suis très heureux d'être là, de se voir tous là. Donc, l'Église, c'est ça. Et puis, c'est magique. Mais laissons vraiment le Seigneur nous toucher. Voilà. On pourra dire tous les beaux principes, tous les beaux contextes, tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui va faire la différence dans nos vies. Donc, moi, je vous invite juste, pour finir, simplement, on peut juste baisser la tête, fermer les yeux, ou baissez pas la tête, mais juste prier que le Seigneur... Merci Seigneur de... On veut te remettre au centre ce matin. On veut te remettre au centre parce que tu as les paroles de la vie et où on pourrait aller ailleurs, Seigneur Jésus. On veut te remettre au centre individuellement, chacun dans nos vies. On veut te remettre au centre en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée chrétienne de Nîmes. On veut te remettre au centre parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci de bénir chacun ici ce matin. En ton nom le plus précieux, Père. Amen. Soyez bénis.